écoutez, je vous remercie d'être venu aujourd'hui à cette séance de dédicace. Peut-être vous expliquer un petit peu le pourquoi de ce livre. En réalité, c'est un livre qui, comment dire, qui grandissait en moi, un peu comme on dit ça d'un enfant, d'une grossesse. C'est le fruit de mon expérience ministérielle, mais c'est aussi un livre thérapie. Il y a eu une élection très dure à la présidence de l'UMP. Vous avez peut-être suivi ce film absolument épouvantable. Et après cette élection, je me suis dit, à quoi peut servir aujourd'hui dans le paysage politique français, à quoi peut servir pour la France une femme qui a été pendant 5 ans ministre, qui est quadragénaire et qui veut vraiment que son pays s'en sorte. Et donc ce livre, c'est vraiment un regard sur les 5 années précédentes, sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est un peu mon inventaire à moi, on peut le dire comme ça. C'est pas du tout un inventaire d'autoflagellation ou d'accusation de quiconque, mais je me suis posé les questions que vous me posez, que tous les Français me posent. Les Français me disent quoi ? Et quand je les rencontre, ils me disent « Bon, vous vous opposez, c'est bien, on a compris, vous êtes dans l'opposition, vous vous opposez, bon. Mais qu'est-ce que vous proposez pour la France, pour nous, les Français ? Qu'est-ce que vous proposez ?» Et puis dès que je dis « Ah bon, on a plein de propositions, les hommes politiques, on a plein de propositions. » La deuxième question, c'est ben « Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Puisque vous avez été ministre pendant 5 ans, puis que la droite a été au pouvoir pendant 10 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ?» Deuxième bonne question. Et quand je dis, on ne l'a pas fait parce qu'il y avait telle et telle raison, tel et tel problème, ils me disent, mais alors qu'est-ce qui nous prouve que vous allez le faire après si on revote pour vous un jour ? Ou si on vote pour vous un jour ? Et alors donc, c'est à ces trois questions que j'ai voulu répondre. Et je me suis posé la question, en fait, pourquoi certaines réformes ont marché et pourquoi certaines n'ont pas marché, ont bloqué ? Quels sont les problèmes, quels sont les verrous de la société française ? Est-ce que c'est la société française qui va pas bien ? Est-ce que c'est la France qui est conservatrice ou révolutionnaire, qui passe sa vie dans la rue ? Parce que j'ai vécu 9 mois de mouvement universitaire, donc je raconte comment on fait quand on doit tenir face à la rue, face à la violence. Est-ce que c'est la société française ? Est-ce que c'est les syndicats, les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, comme on dit, qui jouent pas leur rôle, qui veulent jamais négocier, qui jouent des jeux de rôle ? Je raconte les syndicalistes qui rentraient par un souterrain dérobé, des portes dérobées dans le ministère pour pas être vu, et qui arrivaient dans mon bureau, puis qui ressortaient de mon bureau, qui allaient à la télé pour dire la ministre est fermée, elle veut pas nous recevoir, alors qu'ils sortaient de mon bureau pendant une heure. Enfin bon, mais ces jeux de rôle de la société française, parce qu'il y a des jeux de rôle dans la société française. Est-ce que c'est aussi la force d'un certain nombre d'idées reçues, d'idéologies ? On a vécu pendant 5 ans avec cette antienne du président des riches. Qui a été comme une espèce de boulet à porter et qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas faites et un certain nombre de choses qu'on n'a pas du tout su mettre en valeur, comme par exemple toutes les réformes sociales qu'on a portées. Donc je raconte tout ça et j'essaye de comprendre. Et ma thèse, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais ma thèse, c'est qu'en réalité, on n'avait pas assez d'alliés. On n'avait pas assez d'alliés dans la société civile. Et que quand on lance la réforme du lycée, ou la réforme du bac, ou quand on lance la réforme des collectivités locales en disant on va fusionner les départements et les régions, on n'avait pas préparé les Français. Les Français, ils avaient écouté d'une oreille un peu distraite les sujets, et donc ils n'étaient pas prêts. Nous, on fait notre belle réforme, tout ça, la belle réforme du lycée, on me la balance, et évidemment... tout ce que l'éducation nationale compte de force corporatiste et en fait conservatrice se mobilise pour envoyer les lycéens dans la rue. Et comme dit Xavier Darcos, que vous connaissez peut-être, les lycéens, c'est comme le dentifrice. Une fois que c'est sorti du tube, bonjour pour les faire rentrer. C'est impossible de les faire rentrer. Et donc, on se retrouve dans des situations abominables. Mais cette réforme du lycée, personne ne vous a jamais expliqué pourquoi il faudrait réformer le lycée. Personne ne vous a jamais dit qu'un bac avec 12 épreuves et 38 coefficients, c'était juste totalement insupportable, que ça coûtait un maximum d'argent, qu'on avait un lycée qui coûte 20% de plus que tous les autres lycées et qu'il faut le réformer pour pouvoir faire un lycée beaucoup plus à la carte où on approfondira les matières au lieu de les bachoter. Mais ça, c'est un discours qu'on peut comprendre, qu'on peut entendre. Mais simplement, jamais on se donne le mal de le porter. Et puis, il faut dire que dès qu'on supprime 3 heures d'histoire, on a tous les historiens dans la rue, 3 heures de grec, on a tous les hellénistes dans la rue, etc. Mais parce qu'on ne donne jamais une vision d'ensemble de ce qu'on veut faire, ce qu'il faudrait faire, enfin, c'est une des thèses de mon livre, c'est un bac concentré sur quelques matières, où on approfondisse au lieu de bachoter. Ensuite, un lycée à la carte, là aussi on choisirait des matières, mais pas toutes tout le temps. Et il faut faire du collège le lieu de tous les apprentissages. C'est au collège, c'est à la fin du collège qu'on doit avoir le bagage qui vous permet de réussir dans la vie. C'est pas au lycée. Au lycée, on approfondit. Et donc, il faut redonner un autre rôle au collège. Et puis, avec l'argent qu'on économise, parce qu'évidemment, avec la réforme du lycée, on économiserait beaucoup d'argent, et beaucoup de profs, on les remet dans le primaire et au collège pour donner à tous les enfants lire, écrire, compter et un bagage de culture qu'on estime être celui qu'il faut pour réussir dans la vie. Voilà. Mais si on n'arrive pas avec un projet global de ce type, jamais on convaincra les Français qu'il faut réformer le bac. Plus le bac, rite initiatique total, qu'il faut garder bien sûr, mais qu'il faut changer pour qu'il soit beaucoup plus léger, beaucoup, beaucoup moins lourd, etc. C'est une des réformes que je défends dans le livre. Mais il y en a plein. Il y a à peu près 50 milliards de baisses de dépenses dans ce livre. Alors, bon, là encore, vous allez me dire, vous auriez mieux fait de le faire avant. Mais il y a 50 milliards. Mais vous verrez, quand vous le lirez, que tout est quand même difficile. Hein. Il n'y a pas d'économie facile à faire. Il y a des décisions un peu courageuses à prendre. Voilà. Alors, certains ont dit, c'est un peu technique, parce que ce n'est pas un projet de société. Si, c'est un projet de société. C'est un projet de société. Parce qu'une droite qui réforme, et qui fait passer l'économie en premier, parce que l'économie, c'est l'emploi, parce que l'économie, c'est le pouvoir d'achat, parce que l'économie, c'est le bien-être, c'est la prospérité, et derrière l'économie, c'est la solidarité. Donc moi, j'ai un peu envie de leur répondre à tous ceux qui disent « faut un projet de société, faut... » J'ai envie de leur dire « non, aujourd'hui, faut travailler un peu plus, dépenser un peu moins, favoriser un peu plus l'entrepreneuriat, récompenser le mérite, il faut des valeurs. » Il faut des valeurs, le mérite, l'effort, le travail, la famille, la liberté, la solidarité. Il faut des valeurs. Mais une fois que vous avez ces valeurs, la justice, la vraie justice, une fois que vous avez ces valeurs, les réformes, elles sont finalement presque, j'allais dire, ni de droite ni de gauche. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui dans le pays qu'on sait qu'on doit faire et ce qui aurait été fait par des gouvernements de gauche dans des pays étrangers. Voilà. Donc en réalité, voilà, c'est un livre sur la réforme, comment on l'a réussi. C'est quoi les leviers? Et puis c'est surtout un livre pour interpeller les Français et leur dire, écoutez, si vous avez vraiment envie de sortir de la crise, qui n'est pas une crise économique, hein, c'est une crise de fonctionnement de notre pays, complètement une crise de fonctionnement. Si vous voulez sortir de cette crise de fonctionnement, à ce moment-là, il faut quand même populariser un certain nombre de choses qu'on doit faire. Alors il y a aussi des idées qui sont vraiment des idées tout à fait propres, personnel, que personne d'autre ne défend. Mais par exemple, sur les services à la personne, je considère que l'emploi de demain non qualifié, il est dans les services à la personne. Et je considère que toutes les barrières qu'on met au développement des services à la personne, parce que c'est des emplois qui ne seraient pas des emplois dignes ou pas des emplois suffisamment qualifiés, etc., c'est absurde. C'est absurde. On fait le choix du chômage contre le choix du service à la personne. C'est absurde dans une société en plus prospère, vieillissante, dans une société où il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles, il y a des femmes qui travaillent. Je pense que bloquer le développement de cette économie de service à la personne que Jean-Louis Borloo d'ailleurs avait mis sur les rails, c'est vraiment une énorme bêtise. Et quand on me dit les niches fiscales, c'est pas bien, je dis mais attendez, ça veut rien dire. Il y a des incitations fiscales au service à la personne devraient être totalement développées. Et moi, je considère que c'est absurde qu'on donne énormément d'avantages fiscaux à un chef d'entreprise qui embauche une caissière dans un point P, par exemple, et qu'on ne donne pas de défiscalisation pour un particulier employeur qui embauche quelqu'un pour s'occuper soit de sa vieille mère, soit de ses enfants, soit de sa maison, soit de tout ce dont il a besoin. Il n'y a pas de saut métier. Voilà. Donc je considère que sur les services à la personne, il faudrait y aller franchement et dire que le particulier employeur, c'est un chef d'entreprise. Voilà. Il a des salariés, il défiscalise les salaires de ses salariés et il a les mêmes allègements de charges qu'un autre chef d'entreprise. Il n'y a pas des métiers nobles et des métiers pas nobles. Je pense qu'on va aller dans une société où l'emploi qualifié sera de plus en plus qualifié et où on aura de plus en plus de personnes non qualifiées qui chercheront de l'emploi. Et cet emploi, ce sera un emploi de service. Et il faut professionnaliser les services à la personne, il faut leur donner des perspectives, il faut faire de la formation continue aussi pour sortir de cette société totalement bloquée où quand on commence préparateur de pharmacie, on ne sera jamais pharmacien, et ainsi de suite, où quand on commence infirmière, on ne sera jamais médecin. Je pense qu'on doit réussir à faire une société qui est débloquée, mais pour ça, il faut aussi mettre le pied à l'étrier de la jeunesse. Et la vraie promesse qu'on doit faire, c'est à la jeunesse de France, c'est de lui dire, on va commencer par vous donner un travail. Voilà. Enfin bon, il y a plein de choses dans ce livre. Je pourrais en parler des heures, parce que j'y ai travaillé 6 mois. Mais j'ai essayé d'y mettre beaucoup de cœur, et j'ai surtout essayé de me rendre utile. Voilà, et c'est le but.